mais on l'a compris aussi, ce qui est très important, c'est de savoir repérer la maladie et réaliser un dépistage précoce. Alors Stéphanie Bonbois, vous êtes médecin neurologue en centre mémoire, impliquée dans les diagnostics précoces et dans les essais thérapeutiques. Parlez-nous justement de l'importance de ce dépistage précoce. Pourquoi ?
Merci Agnès. Bonjour à tous et je remercie l'AFRA de m'inviter à être présente aujourd'hui pour vous parler du diagnostic précoce. Et cette salle est absolument magnifique et merci d'être très, très, très nombreux aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est que le diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer ? Alors, il y a beaucoup de choses que je vais vous dire que le professeur Dubois a déjà un peu introduit. Je vais reparler de certaines choses que vous avez entendues déjà. Donc, la maladie d'Alzheimer, c'est une priorité de santé publique, comme l'a décrite l'OMS, mais aussi, par exemple, le Parlement européen. Donc, pourquoi c'est une priorité de santé publique ? Ben, d'une part, vous l'avez compris, parce que ça touche énormément de monde, que ça coûte très cher et qu'il n'y a pas de traitement pour guérir de la maladie. Donc, si je reprends un peu ces grandes lignes, c'est vrai que la maladie d'Alzheimer, c'est 47 millions de personnes touchées dans le monde. Comme l'a dit le professeur Dubois avant, c'est 1,2 million de cas en France, donc c'est beaucoup, beaucoup de personnes. Mais c'est aussi une maladie qui va donc toucher de plus en plus de gens parce qu'on vieillit. Pour autant, il y a les études épidémiologiques qui ont montré que si on regarde des tranches d'âge de personnes en population générale, mais à des générations différentes, on voit que l'incidence de la maladie, et notamment des démences et de la maladie d'Alzheimer, diminue. C'est-à-dire qu'il y a quand même un frein possible sur ces maladies, et probablement par le biais des traitements, notamment des facteurs de risque vasculaires. Alors, le problème, c'est que par rapport au nombre de sujets potentiels, il n'y a qu'une personne sur deux qui est diagnostiquée. Et si on ne fait pas un diagnostic, de ce fait, il n'y a pas d'accompagnement et un plan de soins qui va avec, qui se met en place. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'heure actuelle, en France, le diagnostic se fait à un stade plutôt modéré de la maladie, pas un stade débutant de la maladie. Et on évalue en fait le stade de la maladie d'Alzheimer par une échelle cognitive qui s'appelle le Mini Mental State, le MMS. Il est coté sur 30 et on évalue effectivement le MMS moyen à la première visite en centre mémoire en France autour de 17 sur 30. Donc, vous allez voir après, je vais vous expliquer comment on caractérise un diagnostic précoce. Donc voilà, vous comprenez, beaucoup de gens pas diagnostiqués et plutôt tardivement. Alors on l'a dit, il n'y a pas de traitement curatif, mais pour autant, il y a ces fameux traitements dont le professeur Dubois vient de vous parler, qui on l'espère, vont arriver dans très peu de temps en Europe et peut-être en France. Et ces immunothérapies, elles ont une indication chez les patients qui ont une maladie d'Alzheimer prouvée, avec donc des biomarqueurs qui ont pu être réalisés et qui ont prouvé la présence de ces lésions, et au stade débutant de la maladie. Et les stades débutants de la maladie, c'est les stades prodromaux, c'est-à-dire la période où on a des premiers symptômes de la maladie sans qu'il y ait de conséquences sur les actes de la vie quotidienne. Donc il n'y a pas de dépendance, on reste autonome pour les actes de la vie quotidienne, on peut avoir des petits oublis, mais finalement, bon voilà, c'est vrai que c'est gênant d'avoir des oublis, mais c'est pas forcément accompagné de difficultés pour gérer les actes de la vie quotidienne. Contrairement au stade de démence, qui est un mot médical pour dire qu'il y a des troubles cognitifs qui sont suffisamment importants pour entraîner une perte d'autonomie dans les actes de la vie quotidienne. Et donc les traitements, les nouveaux traitements, ils pourront être mis au stade précoce, au stade prodromaux ou de démence légère. Donc les enjeux actuels, c'est un diagnostic qui soit fiable, puisqu'on l'a dit, il faut qu'il y ait quand même des biomarqueurs qui prouvent la présence des lésions de la maladie, qui soit précoce, et puis finalement aussi accessible au plus grand nombre. Et ça, on reviendra dessus sur cette notion. Une fois qu'on a fait un diagnostic, là, on peut mettre en place un plan de soins adapté à chacun. Donc, comment on définit un diagnostic précoce de maladie d'Alzheimer ? Donc, le professeur Dubois vous en a parlé. Les lésions de la maladie d'Alzheimer, elles sont définies par c'est Alois Alzheimer qui les a décrites initialement dans le cerveau des patients, avec donc ces protéines amyloïdes qui se déposent en plaques dans le cerveau, et puis les protéines tau qui s'agrègent également et qui se déposent dans les neurones pour les faire mourir. Ces lésions, maintenant, on sait qu'elles se déposent progressivement dans le cerveau dans une longue phase que l'on appelle asymptomatique, donc on n'a pas de symptômes. Cette phase, elle va durer peut-être entre 10, 15, voire peut-être même 20 ans, où il y a possiblement d'abord les peptides amyloïdes qui se déposent, puis ensuite les protéines tau qui vont... Alors je vais me rapprocher ici, éviter de tomber. Donc là, c'est la ligne bleue pour les protéines tau. Et vous voyez que les protéines tau vont se déposer dans le cerveau et c'est elles qui sont associées au déclin cognitif et aux symptômes de la maladie. Donc, cette longue phase asymptomatique, elle est suivie d'une longue phase symptomatique où les personnes donc vont avoir des troubles cognitifs. Et ces troubles cognitifs, donc au départ, je vous l'ai dit, ils sont ce qu'on appelle post-symptomatiques, des petits troubles de mémoire. On oublie les nouvelles informations, mais ça reste très localisé et finalement, ça ne nous empêche pas de vivre notre quotidien. C'est cette phase prodromale. Et puis ensuite, cette phase prodromale, elle peut durer, on l'évalue peut-être à 8-10 ans, donc c'est quand même assez long. Et puis ensuite, il y a cette dégradation, la maladie, elle va toucher d'autres zones du cerveau que la zone de l'hippocampe, et pour toucher d'autres régions et entraîner d'autres symptômes cognitifs qui vont favoriser la perte d'autonomie. Donc le diagnostic, comment il est fait ? C'est un diagnostic actuel qui est clinico-biologique, c'est-à-dire qu'il faut prouver la modification cognitive, le fait qu'il y ait un déficit de mémoire ou d'un autre trouble, d'une autre fonction cognitive, comme le langage, comme des troubles neurovisuels, ou des difficultés d'organisation, des difficultés de comportement. Donc on a des échelles pour évaluer ces difficultés-là, ces modifications. Ces modifications cognitives dont on doit faire la preuve, on doit, pour le diagnostic de maladie d'Alzheimer, les associer à la présence des lésions pathologiques de la maladie d'Alzheimer. Donc du vivant du patient, et de ce fait, on va utiliser les biomarqueurs dont le professeur Dubois vous a parlé, à la fois pour montrer qu'il y a du peptide amyloïde, donc par le biais soit de la ponction lombaire qui va nous permettre de dire si oui ou non il y a une concentration de ce peptide qui est anormale dans la ponction lombaire. On va pouvoir utiliser ce que l'on appelle l'imagerie métabolique, où on injecte un produit, un radioligand, qui va venir se fixer aux plaques amyloïdes. On fait la photo et on voit ensuite ces dépôts amyloïdes. Donc là, ça nous permet de dire oui ou non il y a la présence de ces lésions, mais ça nous permet aussi de les quantifier et de voir à quel endroit ils se trouvent. Et puis, on a la nécessité de prouver qu'il y a la présence des protéines tau anormales. Là aussi, on peut le faire par le biais de la ponction lombaire. Donc, on ne fait pas deux ponctions, on fait une ponction et on a les deux informations en même temps. Pour l'imagerie, de la même façon qu'on a un radioligand amyloïde, on a aussi un radioligand sur les protéines tau qui sont agrégées et qui signent la maladie. Donc vous avez compris, on a des marqueurs qui donc sont réalisés soit par la ponction lombaire, on a les deux informations en même temps, soit via les TEP, donc ces examens d'imagerie métabolique. Le diagnostic précoce, donc on le définit de cette façon, d'une part par le stade prodromal ou de démence légère, donc soit on a des troubles cognitifs sans répercussion sur l'autonomie, soit on a des petites difficultés cognitives qui nous gênent pour les actes les plus compliqués de la vie quotidienne. Donc les actes les plus compliqués, ça va être par exemple toutes les activités que l'on peut faire dans le domaine associatif, par exemple tous les comptes, la gestion administrative, des choses un peu complexes. Là, on ne parle pas de ne pas savoir s'habiller ou de ne pas savoir faire la cuisine. Donc, ça se définit, nous, en centre mémoire, par le MMS qui doit être au-dessus de 22. Donc, vous voyez, on est loin quand même de notre MMS moyen de 17. Et puis, cette échelle qui s'appelle la CDR qui doit être supérieure à 1. Alors, quel est le parcours diagnostique en France ? Donc, pour faire le diagnostic, nous, on s'appuie de recommandations de la Haute Autorité de Santé qui, vous voyez, date un peu, c'est de 2011. Donc, bon, on espère qu'elles vont pouvoir être revues prochainement parce que, voilà, ça ne colle pas tout à fait à l'actualité et aux connaissances que l'on a à l'heure actuelle de la maladie. Pour entrer dans un parcours de soins, il faut quand même avoir des symptômes qui nous amènent à consulter. Et le symptôme qui nous amène à consulter, c'est la plainte cognitive, c'est de se plaindre de sa mémoire. Alors, on peut s'en plaindre soi-même, mais parfois, on ne se rend pas compte qu'on est en difficulté et ça va être un proche qui va nous accompagner à la consultation pour décrire les difficultés. Donc, en principe, la première consultation, c'est la consultation du médecin généraliste, qui a une consultation qui peut être dédiée, une consultation longue, parce qu'une consultation mémoire, ça ne se fait pas en 5 minutes. Il y a beaucoup d'étapes d'interrogatoires, de tests cognitifs, d'un examen clinique. Et cette consultation dédiée peut amener, s'il y a des petites difficultés que reconnaît le médecin généraliste, à réaliser une prise de sang, une IRM, et puis à dire au patient, là, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait normal, je vous oriente vers la consultation mémoire spécialisée. En France, il y a de très nombreuses consultations mémoire spécialisées qui sont vraiment réparties sur tout le territoire. Donc ces consultations, on est très organisé et on est organisé suivant les agences de santé. Avec les consultations de proximité, ça peut être un neurologue ou un gériatre en ville, par exemple, mais ça peut être aussi la consultation de territoire sur un hôpital de proximité qui a une consultation dédiée. Et puis, en France, il y a 28 centres mémoire de ressources et de recherche qui sont des gros centres où on fait à la fois du diagnostic, mais aussi de la recherche, parce qu'on a la possibilité d'avoir accès à tous les examens paracliniques d'imagerie très sophistiqués, de la biologie sophistiquée, pour répondre à ces questions à la fois de soins et de recherche. Donc ces 28 centres, ils sont vraiment répartis partout en France. Donc concrètement, le patient qui est dirigé en consultation mémoire, il va voir un médecin qui va donc faire une évaluation cognitive, comportementale, de la perte d'autonomie sur la base de questionnaires. Ensuite, il fait un examen physique, il peut faire aussi quelques petits tests de mémoire et donc avoir une idée de qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on est dans le cadre de quelque chose de débutant et qui nous inquiète ou est-ce qu'on peut déjà rassurer un peu le patient ? Donc, en fonction des hypothèses de cette première consultation, il y aura des explorations qui pourront être proposées, des explorations cliniques avec une évaluation neuropsychologique, qui est une évaluation qui va durer une heure et demie environ, avec l'exploration de toutes les fonctions cognitives. S'il y a un trouble du langage, un orthophoniste pourra faire aussi cette évaluation. Il pourra y avoir une évaluation psychocomportementale et aussi de la dépendance par l'assistante sociale. En fonction, on pourra également faire des explorations paracliniques. Alors, en fonction de quoi ? les recommandations de la HAS, elles disent que l'IRM, elle est systématique. Mais les examens de ponction lombaire et de tomographie, elles ne sont pas systématiques. Elles sont proposées chez les sujets jeunes et chez les personnes qui ont une présentation atypique de la maladie. Et donc, il faut savoir que dans un gros CMRR, on fait environ 300 ponctions lombaires par an. Et on peut voir jusqu'à 4000 patients. Donc, vous voyez, là, on ne fait pas cet examen à tout le monde. Et effectivement, c'est qu'une petite partie des patients qui auront un diagnostic. Il faut aller dans un centre qui fait les ponctions lombaires. Et tous les centres, toutes les consultations dont je vous ai parlé tout à l'heure ne font pas du tout ces recherches. Donc, c'est vraiment... Vous le voyez, quand même, un diagnostic qui va. Ce diagnostic de précision ne va quand même pas concerner tout le monde. Alors, du coup, on pourrait se dire bah, pourquoi faire le diagnostic de maladie d'Alzheimer ? Alors, il y a des arguments contre faire ce diagnostic. C'est vrai qu'il y a une petite enquête par l'association Vaincre Alzheimer qui a montré chez 3000 personnes, donc ce n'est pas complètement représentatif, hein, c'est peu de personnes, mais parmi ces personnes interrogées, 44 ne souhaitaient pas consulter pour un trouble de mémoire. Arguant le fait qu'il n'y avait pas de traitement curatif, donc ça c'est la première cause, la première raison de ne pas avoir envie de se faire diagnostiquer, la peur du diagnostic. Et puis aussi la méconnaissance du parcours diagnostique. Donc là, je viens de vous parler de ce parcours diagnostique. Maintenant, vous êtes plus au courant. Alors, il y a aussi les arguments en faveur du fait de faire un diagnostic. Bien sûr, c'est pas parce qu'on se plaint de sa mémoire qu'on a une maladie d'Alzheimer. Et la seule façon, finalement, de savoir si notre plainte de mémoire c'est ou pas en rapport avec une maladie d'Alzheimer, bah, c'est de consulter et de faire les démarches dont je vous ai parlé. Il faut savoir qu'en consultation mémoire, c'est que 50% maximum des personnes qui viennent consulter qui ont une maladie d'Alzheimer. Donc on peut venir consulter et pas avoir cette maladie. Ça permet quand même de bénéficier d'un plan de soins qui va être du coup personnalisé pour chaque patient. On va pouvoir proposer des traitements symptomatiques. Donc les traitements symptomatiques, c'est des traitements auxquels on a tous accès depuis une vingtaine d'années. C'est les traitements, les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase qui ont quand même montré que c'était mieux que rien d'avoir ces traitements. C'est sûr, c'est pas la panacée. Mais voilà, on sait que finalement, même à long terme, ils permettent de réduire le déclin cognitif.
On va avoir tout un tas de questions à la fin, donc c'est vrai qu'il y a énormément de questions, hein, on s'en doute. Si vous voulez l'écrire, ce sera peut-être plus simple pour nos intervenants.
Ça marche.
Voilà, peut-être parler effectivement, les personnes qui ont des problèmes de mémoire, ça peut aussi être lié à un médicament, à un manque d'hydratation, que sais-je, des choses que vous trouvez également dans les consultations.
Oui,
et
oui,
puis, alors, ça peut être d'autres maladies.
Voilà, c'est ça. Mais la première personne à qui il faut en parler, c'est le médecin généraliste, parce que lui, il va déjà détecter tout ce qui est un peu traitable. Hein, une dépression, un problème de thyroïde, des choses comme ça, des choses simples qui peuvent déjà être traitées tout simplement par le médecin généraliste. Donc, le fait de bénéficier d'un plan de soins personnalisé, comme je vous disais, ça permet de quand même mettre en place des traitements symptomatiques, de mettre en place aussi des dispositifs qui sont adaptés, et notamment médico-sociaux, faire de la prévention, dont vous a parlé le professeur Dubois, et puis se préparer à l'arrivée des traitements, et notamment du lecanemab. Ça permet aussi de participer au programme de recherche. Donc maintenant, vous êtes familiarisé avec ce petit diagramme. Il y a près de 160 traitements quand même qui sont en cours d'évaluation à l'heure actuelle dans le monde, dans cette maladie. Donc vous voyez que c'est quand même assez actif. Et puis, ça permet d'anticiper et prendre soin de soi-même des décisions qui concernent la personne soi-même. Hein. Donc en fait... faire un parcours diagnostique et un plan de soins, plus on le fait tôt, plus il sera optimum et on pourra en bénéficier et plus longtemps. Donc c'est vraiment important pour ça. Alors, les diagnostics, le diagnostic précoce, il a quand même des limites. À l'heure actuelle, on n'est pas toujours convaincu de l'intérêt de faire ce diagnostic précoce. Il y a des difficultés d'accès aux soins primaires. Hein, vous le savez qu'il y a de plus en plus de difficultés pour avoir accès aux médecins.
Les déserts médicaux et compagnie.
Voilà, exactement. Et les déserts médicaux, c'est aussi dans le 93. C'est pas loin de chez nous, hein, c'est là. Il y a des délais de consultation qui sont très longs dans les services, dans les consultations mémoire. C'est de 3 à 8 mois, hein, donc les délais sont très longs. Vous avez compris, le parcours diagnostique, il est complexe et du coup, cette complexité prend du temps aussi. Donc c'est facilement, parfois une année avant de faire un diagnostic. Et puis, il y a cet accès limité aux biomarqueurs. Comme l'a dit tout à l'heure le professeur Dubois, pour le moment, il n'y a pas d'intérêt à diagnostiquer des sujets asymptomatiques. Donc, ça ne sert à rien de faire une IRM ou une TEP ou une ponction lombaire si on n'a pas de symptômes et si on n'a pas de difficultés dans le quotidien, parce que comme il l'a dit tout à l'heure sur l'étude menée dans le service, c'est pas parce qu'on a des biomarqueurs qu'on va développer la maladie. Alors, c'est quoi les outils du diagnostic précoce à venir? Eh bien, je vous présente rapidement un outil digital qui a été développé au sein du service de la Salpêtrière et un projet qui a été soutenu par l'AFRA. On a validé en fait un outil digital, une plateforme permet avec un ordinateur ou une tablette de pouvoir répondre à quelques questions simples sur sa mémoire, sur ses antécédents, de pouvoir faire quelques tests cognitifs. Et en quelques minutes, finalement, de pouvoir avoir une idée de est-ce qu'on a ou pas des difficultés cognitives qui pourraient être inquiétantes et notamment qui pourraient être du registre du trouble de mémoire que l'on retrouve dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. L'intérêt de cet outil, c'est qu'il peut donc faire une évaluation assez précoce, mais aussi une évaluation facile que l'on peut faire soit avec le médecin généraliste, pourquoi pas aussi à domicile. Donc l'idée, c'est de développer cet outil auprès notamment du médecin généraliste. Vous vous plaignez de votre mémoire, il vous fait faire les tests rapidement et là, vous pourrez savoir si oui ou non, il y a la nécessité d'aller voir la consultation mémoire de proximité. L'autre outil du diagnostic précoce, c'est les biomarqueurs plasmatiques dont vous a parlé le professeur Dubois. Donc effectivement, cet outil, il est difficile encore à l'heure actuelle parce que la concentration des protéines anormales, elle est très faible dans le sang par rapport au liquide cérébrospinal et ils font des techniques très sophistiquées pour pouvoir faire ce diagnostic.
Donc une prise de sang espérée à la place de la ponction lombaire.
Exactement, ce qui permettrait de pouvoir proposer cette prise de sang, pourquoi pas auprès du médecin généraliste, d'accéder finalement par cette prise de sang aux biomarqueurs à la fois amyloïdes et tau. Et puis vous voyez que là, ça permettrait d'avoir un diagnostic beaucoup plus large et pas uniquement aux personnes qui peuvent accéder à la réalisation de la ponction lombaire. Voilà, et puis pour finir, les cliniques de la prévention dont vous a parlé le professeur Dubois, vous l'avez compris, on peut effectivement par des techniques diagnostiquer s'il y a les lésions de la maladie. Ça ne veut pas dire qu'on va développer cette maladie. L'idée, c'est de pouvoir émettre et évaluer un risque pour une personne donnée en fonction de facteurs génétiques, en fonction de ces facteurs de risque modifiables comme l'hypertension, le diabète, le fait de fumer, etc. Et puis par les biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer. Et donc là, c'est pour vous dire qu'en 2025, donc dans très peu de temps, on va pouvoir mettre en place ces cliniques de la prévention. Voilà. Donc je finis juste pour conclure. Donc vous l'avez compris, la démarche diagnostique, Elle est encadrée par des recommandations. Maintenant, on fait encore un diagnostic tardif. Il y a des biomarqueurs spécifiques de la maladie, certes, mais qui sont peu accessibles. Des traitements symptomatiques qui sont maintenant déremboursés, mais on a l'arrivée de l'immunothérapie. Donc, il faut développer des nouveaux biomarqueurs et des outils diagnostiques pour un diagnostic plus précoce. Et voilà cette possibilité d'évoluer vers la prévention des cliniques de prévention de la maladie. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup.